Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. Aujourd'hui, on replonge dans l'affaire du greffier du Parlement wallon. Une affaire qui fait scandale depuis l'automne 2022 après un article paru dans le journal Le Soir. Le greffier Frédéric Janssens a été écarté de ses fonctions. Il est accusé de harcèlement envers le personnel de l'administration du Parlement, mais pas seulement. Il est aussi question de mauvaise gestion, d'irrégularité dans l'attribution de marchés publics, mais aussi de dépenses excessives. Une maison des parlementaires à plus de 46 millions d'euros au lieu des 17 prévus au départ. Un tunnel qui coûtera 3 millions d'euros d'argent public. Alors que savait le bureau du Parlement chargé de contrôler son travail? Qui a laissé faire et pourquoi? Depuis notre enquête diffusée en décembre 2022, il y a eu de nombreux rebondissements. Le président du Parlement de Wallonie, le socialiste Jean-Claude Marcourt et les autres membres du bureau ont été poussés à la démission. Quel impact aura ce scandale sur les élections de 2024? On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais d'abord, retour sur l'affaire. Un greffier hors de contrôle, c'est notre investigation du jour. Une enquête menée par Alain Vassène et Guillaume Volner, racontée aujourd'hui par François Lizen et Francis Leclerc.
Dès que la personne est arrivée dans le bureau du greffier, eh bien, il a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Tu n'es qu'un moins que rien. Tu n'es qu'une merde. » Et là, je me suis levé et je suis parti. Et il m'a appelé, il m'a dit « Je ne t'ai pas dit de partir. » Et je lui ai répondu « Moi, je ne sais pas rester. » Donc après, j'ai entendu hurler sur l'argent. Voilà.
Cette enquête débute au milieu de l'été 2022 et elle commence par un courrier. Un email parvenu à la rédaction. En pièce jointe, un document d'une dizaine de pages. Il concerne le Parlement de Wallonie. C'est l'Assemblée d'élus qui décide entre autres des lois régionales et qui contrôle le gouvernement wallon. Le Parlement, ce sont 75 députés réunis autour d'un président et une centaine de fonctionnaires dirigés par un greffier. Ce greffier, qui est en quelque sorte le chef de l'administration du Parlement, il s'appelle Frédéric Janssens. Son supérieur hiérarchique, c'est le président du Parlement. Et au début de cette enquête, la fonction était occupée par le socialiste Jean-Claude Marcourt.
Alors, je crois que Frédéric Janssens a apporté énormément de rigueur, énormément de sérieux. Frédéric Janssens, vous pouviez l'appeler le dimanche matin, le dimanche soir, pendant la semaine, il répondait. Et je crois que les parlementaires peuvent dire qu'il est quelqu'un qui a amélioré la gestion du Parlement dans le fonctionnement.
Frédéric Janssens est en poste depuis 14 ans. Et il a donc l'image d'un bosseur qui semble faire tourner son administration avec rigueur. Mais les apparences sont parfois trompeuses. C'est ce que semblent démontrer les documents que nous avons en notre possession. Il y est notamment question d'une légèreté parfois extrême dans les dépenses d'argent public, de coûts non maîtrisés dans deux chantiers d'envergure qui concernent le Parlement, mais aussi d'une gestion humaine très problématique du personnel du greffe. Tout cela doit être investigué, vérifié, recoupé, et cela sera notre travail pour les prochaines semaines. Pour trouver des confirmations ou, comme on dit dans notre jargon, fermer certaines portes, il faut, pour commencer, trouver des contacts au sein du personnel du greffe. Ça ne devrait pas être trop compliqué car plusieurs agents ont déjà déposé plainte devant la justice contre Frédéric Janssens. C'était en 2013, il était déjà question de harcèlement et d'humiliation. Une enquête avait eu lieu, mais le greffier avait été blanchi. Les années ont passé, mais apparemment le comportement n'a pas changé. Juin 2022... Nouvel article, nouveau témoignage de management toxique, nouvelle plainte. Il faut quelques jours pour nouer les premiers contacts, mais la confiance est difficile à gagner. La confiance pour oser témoigner. Donner l'assurance que la voix sera transformée, que le visage du témoin sera flouté ou même absent de l'image, tout cela ne suffit pas. Toutes les personnes rencontrées partagent la même crainte de témoigner par peur de représailles. Finalement, après plusieurs semaines de discussions, de contacts réguliers, trois témoins acceptent de dénoncer à la télévision ce qu'ils vivent au quotidien avec Frédéric Janssens.
On est réellement face à quelqu'un qui a deux visages. Il peut être à la fois extrêmement charmant et souriant en public, et lorsque vous êtes entre quatre yeux avec lui, devenir quelqu'un d'insultant, d'agressif, de violent. À un moment, vous savez que vous rentrez dans un bureau et vous ne sortirez pas de ce bureau tant que vous ne serez pas démoli psychologiquement, et où votre image de vous-même va être complètement détruite. On est face à de la destruction psychologique. L'objectif est vraiment de démolir pour que vous ne puissiez plus réagir.
Le témoignage que vous venez d'entendre sera renforcé par un autre. Un témoignage, ou plutôt un enregistrement recueilli par le journal Le Soir. Dans son édition du 12 septembre 2022, le quotidien retranscrit des menaces de mort proférées par Frédéric Janssens contre un employé du greffe. Cet homme, nous l'avons rencontré plus tard et après beaucoup d'hésitations, il a accepté qu'Investigation diffuse l'enregistrement. La scène se passe en mai 2019. Le fonctionnaire travaille dans son bureau avec un enregistreur au moment où entre le greffier. La voix que vous allez entendre est la sienne. Tendez bien l'oreille.
T'as vu comment je te l'ai désingué, je me suis... Bon, je fais ça sur toi ?
Non.
Ah, ouais. Et tu veux d'autres exemples ? J'ai eu ça pour comment ? Des procédés odieux. J'ai eu ça pour... Tu veux que j'utilise ce procédé avec toi ? Je passe du temps cardiologue ce soir. Hein. T'es à la morgue à me dire.
Tu passes chez ton cardiologue ce soir, tu es à la morgue à midi. Ces propos font froid dans le dos, d'un cynisme et d'une violence extrêmement choquants.
Il s'en va, j'essaie de me remettre à mon travail et je me rends compte qu'effectivement, le compteur de mon enregistreur continue de tourner. Donc je l'arrête, je reviens en arrière. J'écoute. J'ai une collègue qui est proche. Je lui demande de venir. Je dis, est-ce que tu peux écouter ceci ? Je mets les écouteurs. Elle s'effondre en larmes. Ça, je m'en souviendrai toujours. Elle s'effondre en larmes. Et elle me dit, que vas-tu faire de ça ? Je dis, je sais pas.
L'homme conservera l'enregistrement pendant de longs mois, songeant plus d'une fois à le détruire.
Oui, il y a des collègues qui se font traiter de laquais, de sous-merde, de poule sans tête, de pute alcoolique. Il a dit à une de mes collègues, vous savez, mademoiselle, si je voulais, pour m'amuser, je pourrais faire rouler votre tête au milieu du couloir. Le personnage fonctionne comme ça. Et voilà, à un moment donné, vous vous dites, ok, l'institution risque de trinquer, mais on peut pas tolérer ce qui se passe. C'est pas normal.
La retranscription de cet enregistrement dans Le Soir va servir d'électrochoc. Trois jours après sa parution, le greffier est écarté pour une durée de 6 mois. À ce stade de notre enquête, nous avons donc récolté plusieurs témoignages accablants sur la manière dont le greffier traite une partie du personnel. Tous racontent les violences verbales et selon tous les témoins rencontrés, le management du Parlement devait forcément être au courant de ce qui se passait. Ce management, il est exercé par 5 parlementaires, 2 élus socialistes, 2 libéraux et 1 écolo qui constituent ce qu'on appelle le bureau du Parlement. Ils se réunissent tous les 15 jours pour gérer les affaires non politiques telles que les locaux, les équipements, les travaux ou encore l'engagement du personnel. Le seul et unique interlocuteur du bureau, c'est Frédéric Janssens. Personne d'autre, comme nous l'a raconté ce témoin.
Ah, c'était interdit. On a un jour eu une réunion, et dans la réunion, c'était de nous dire « Vous ne pouvez pas, je vous interdis de parler avec le parlementaire, avec le membre du bureau. »
Jean-Claude Marcourt, ex-président socialiste du Parlement wallon.
J'ai été étonné en prenant mes fonctions qu'il y ait une personne qui détienne autant de pouvoir au sein du greffe. Il souhaitait que ce soit lui et lui seul qui apporte les réponses vers le bureau. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui devrait être modifié.
La vie des uns et des autres cloisonnée, le greffier n'a-t-il pas négligé parfois d'informer son employeur de certaines choses ? Plusieurs faits dans la suite de notre enquête semblent aller dans ce sens. Fin 2020, un audit est réalisé au Parlement de Wallonie. Il est mené par Mensura, c'est un service externe spécialisé notamment dans le bien-être au travail. Le rapport évoque des cris, des propos déplacés et du dénigrement. Il pointe en conclusion un management à risque et invite, c'est écrit noir sur blanc, à faire prendre conscience à M. Janssens que son attitude est à risque au niveau psychosocial. Ce rapport, le bureau du Parlement ne l'a, semble-t-il, jamais reçu. C'est en tout cas ce que nous dit la libérale Jacqueline Galland, qui siège au bureau depuis 2018.
Il y a quelques années déjà que Mensura travaille avec le Parlement, donc nous avons demandé à les rencontrer et ils nous ont informés de deux rapports et nous n'avions jamais eu ces rapports. Jamais.
Cette fois-là, en tout cas, le greffier n'a pas tout montré à ses employeurs et on s'interroge sur les rapports qu'il entretient avec eux. Avec les membres du bureau notamment, ou les chefs de groupes politiques au Parlement de Wallonie, c'est plutôt opération séduction. Et parfois, sans regarder à la dépense, comme on va vous le démontrer. En novembre 2021, le greffier organise pour lui et le président du Parlement un voyage à l'exposition universelle de Dubaï. Un voyage de représentation de 4 jours, payé avec de l'argent public, mais l'addition va être particulièrement salée, à commencer par celle du vol. Les deux hommes partent en classe business, 4 266 euros l'aller-retour, et ce, en dépit du règlement du Parlement qui préconise de voyager en classe économique. Jean-Claude Marcourt.
Je voyage beaucoup en Europe. Nous sommes systématiquement en classe économique. Et c'est bien normal. Mais lorsque ce sont de longues distances, eh bien, nous avons l'opportunité de le faire en business.
Le voyage en business n'est pas la seule dépense qui a retenu notre attention. À Dubaï, le greffier et celui qui était encore le président du Parlement posent leurs valises dans un des hôtels les plus huppés. 600 euros la nuitée par personne. Puis, malgré le fait que les contacts aient été pris avec l'ambassade belge sur place, que le voyage soit organisé et encadré, Frédéric Janssens complète le city trip par une réservation dans une agence touristique locale. Le montant pour cette partie loisir du voyage s'élève à 3 446 euros.
Vous me l'apprenez. Je ne sais pas de quoi il est question et il faudrait lui poser la question.
Nous avons bien entendu sollicité Frédéric Janssens pour évoquer ce voyage de 4 jours à 20 000 euros et pour répondre aux nombreuses questions que nous avons à lui poser. Mais jamais il n'acceptera de nous recevoir. À ce stade de notre enquête, on se rend compte que Frédéric Janssens, le greffier, a énormément de pouvoir. Sur le personnel du greffe, on l'a entendu, mais aussi sur les députés qui composent le Parlement de Wallonie. Un homme de poigne, capable de mettre la pression tout autour de lui, comme en témoigne ce proche collaborateur.
C'est aussi les pressions que certains parlementaires peuvent avoir, parce que le greffier d'Assemblée prend des décisions, que ce soit en termes de calcul des présences, de reconnaissance de voyage ou de mission officielle pour le traitement des parlementaires. Il a une influence administrative sur eux, il a une influence financière sur eux.
Au fil des années, rappelons qu'au moment de notre enquête, il est en place depuis 14 ans, Frédéric Janssens a endossé le costume de patron. C'est en tout cas l'avis de Manu Di Sabato, qui, au sein du bureau du Parlement, représente le parti écolo.
Oui, soyons clairs, je pense que le vrai patron du Parlement était Frédéric Janssens, parce qu'il avait la main sur l'ensemble des services du Parlement.
Un greffier qui trône au-dessus de la pyramide avec un revenu et des avantages bien supérieurs à ceux des parlementaires eux-mêmes. Son salaire avoisine les 9000 euros nets mensuels auxquels il faut ajouter une voiture de fonction. Et puis une seconde, avec chauffeur, prise celle-là sur le charroi des 8 véhicules à disposition du Parlement. Frédéric Janssens dispose aussi d'une carte essence et d'une carte de payage qu'il utilise quand il fait route vers le logement qu'il possède dans le sud de la France. Le greffier est aussi salarié de la caisse de pension des parlementaires. Il était en tout cas encore en 2019, année des derniers comptes disponibles. Un dixième temps, soit 2 jours par mois, pour 1 300 euros bruts mensuels supplémentaires. Nous pointerons enfin également un autre montant de 1 300 euros. Celui-là, c'est pour les frais de représentation, destinés entre autres à régler les additions dans un resto bien connu du centre de Namur.
Le restaurant, c'était... Je vais dire sur les 5 jours, je vais dire 4 restaurants. Souvent, les invités, c'était sa petite cour, quoi. C'est les personnes qui l'entouraient. J'allais le conduire généralement vers 13h et j'allais le rechercher vers 16h.
Les membres du bureau nous le diront, personne ne contrôle le greffier, ni son emploi du temps, ni l'utilisation des cartes, ni ses notes de frais, rien. Et on se rend compte que finalement, peu surveillé, l'homme qui est souvent très à cheval sur le règlement l'est parfois beaucoup moins, notamment quand il utilise le personnel du Parlement à des fins privées.
Combien de fois j'ai été amené à faire des tâches pour lui dans le privé ? Ça a été de la pharmacie à aller rechercher son linge, à aller rendre des clés d'appartement dont il est propriétaire.
Des tâches domestiques, voire, c'est arrivé, du travail plus lourd dans un des logements du greffier, et ce, durant les heures de service.
Il avait un problème de carrelage dans sa douche. Et là-dessus, il ne trouvait pas de carreleur. Et donc, il m'a demandé, pour voir si ça ne me dérangeait pas, d'aller voir si je savais le faire. Donc, j'y suis allé et j'ai dit, oui, je vais le faire.
Ce témoignage est le dernier que nous avons recueilli, du moins, dans cette première partie de l'enquête. Une première phase qui nous aura permis de confirmer les soupçons de harcèlement et de management autoritaire qui pesaient sur Frédéric Janssens. Mais notre travail n'est pas terminé. Car, en plus d'avoir les pleins pouvoirs pour faire tourner comme il l'entend et sans contrôle l'administration du Parlement, le greffier a les clés de la caisse. Il les a héritées de son prédécesseur. Il a par exemple le droit de passer des commandes ou de signer des factures pour le compte du Parlement.
Le fait d'avoir une très large délégation faisait qu'il pouvait signer des marchés publics ou un certain nombre d'engagements pour le Parlement sans passer par le bureau.
Sans passer par le bureau, et ici aussi, sans le contrôle du bureau. La porte ouverte à de nouvelles dérives. Depuis de nombreux mois, une maison des parlementaires est en construction. On y viendra dans quelques instants, car intéressons-nous d'abord à un tunnel, ou plutôt à une jonction piétonne, un passage qui relie un nouveau parking souterrain au siège du Parlement. Une jonction à l'usage exclusif des 75 députés wallons et du greffier, bien entendu. Germain Mouguema-Guingo siège dans l'opposition au Parlement. Il est le chef du groupe PTB.
Le tunnel, nous le contestons depuis sa création. Il n'y a rien qui le justifie. Si au même on rentre dans cette logique de sécurité, c'est traverser un passage piéton. Hein. C'est de ça qu'on parle. Hein. Donc tu mets ta voiture dans le parking, tu sors du parking, tu gravis deux volets d'escalier ou si t'es un peu fainéant, tu prends l'ascenseur et tu traverses un passage clouté. C'est de ça qu'on parle. Et au lieu de dire aux gens, vous allez faire ça les gars, et si jamais il y a des problèmes de sécurité, on va vous prévenir. Hein. C'est jamais arrivé depuis que je suis parlementaire, mais on sait jamais. Au lieu de faire ça, on fait un tunnel.
Et ce tunnel va coûter quelques 982 000 euros. C'est en tout cas dans le marché public le montant prévu pour les travaux. Sauf qu'au final, le tunnel coûtera plus de 3 millions d'euros d'argent public, soit 3 fois plus que le prix de départ. Une explosion de budget qui s'explique tout simplement. En réalité, les 982 000 euros du premier marché servaient seulement à creuser le tunnel, pas à l'aménager. Manu Di Sabato, ex-membre écolo du bureau du Parlement de Wallonie.
Même si je n'étais pas d'accord, en tout cas, avec cette jonction piétonne, je dois reconnaître que c'était compliqué, en tout cas, de ne pas terminer les travaux une fois qu'ils étaient entamés. On ne peut pas creuser un tunnel et arriver face à un mur. Donc, à un certain moment, il est nécessaire aussi de créer un petit peu les aménagements sur la suite.
Le greffier a donc l'autorité et le mandat pour passer des marchés publics sans en informer ses supérieurs, qui ne semblent pas s'inquiéter des décisions prises par Frédéric Janssens et qui engagent de l'argent public. Mais vous allez l'entendre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Notre enquête s'achève sur un autre chantier. Celui, souvenez-vous, de la maison des parlementaires. Un chantier débuté à l'automne 2019 et qui va s'avérer être un véritable gouffre financier. Cette maison, c'est une imposante construction de 3 étages, accolée à l'actuel Parlement. Des salles de commission, des salles de réunion et des bureaux. Un projet ambitieux pour un cadre de travail optimal.
En termes de technicité et de complexité, c'est le projet le plus complexe que j'ai pu traiter, effectivement.
Thierry-François Yernaud est le patron d'une société spécialisée en développement de projets immobiliers. Il suit le chantier au plus près. Il nous l'a fait visiter en exclusivité.
Ça, c'est un espace
de zone de commission, type, il y en a 5. Mm-hmm. C'est une des grandes salles, ce n'est pas la plus grande salle. Là, l'architecte a fait un choix sur une durabilité très importante, puisque ce genre de parquet est ce qu'il y a de plus résistant. Évidemment, tout ça, pour le coup, on a été bien inspiré avec, je dirais, une efficacité énergétique au top.
17 millions d'euros, c'est le prix auquel le marché a été attribué. Mais comme pour le tunnel, dans l'ombre, la facture va gonfler, notamment à cause des adaptations et des améliorations demandées. Thierry-François Yernaud nous détaille quelques-unes des spécificités techniques et technologiques.
Un système de climatisation et de chauffage par plafond actif pour garantir une parfaite praticabilité des salles, même en période de canicule. On a aussi rajouté des ventilos convecteurs. Ça aussi, ça fait partie d'un upgrade du bâtiment. Ça sonne creux. Pourquoi nous sommes amusés à entourer les colonnes béton d'un fût métallique? C'est simplement par rapport à une attaque éventuellement d'un camion bélier qui voudrait défoncer le Parlement.
Au sous-sol, une salle de conférence équipée avec ce qui se fait de mieux.
Un écran rétractable, des régies son et lumière, donc vraiment pour avoir toute la fonctionnalité, tout le confort nécessaire pour pouvoir faire tout ce qui sera nécessaire pour le Parlement. Le plafond de cette salle sera équipé d'une œuvre d'art représentative de la Wallonie.
On l'aura compris, à chaque étage, la maison des parlementaires sera dotée d'équipements ultra modernes. Mais vous allez l'entendre, juste après l'intervention de Germain Mouguemin-Gango pour le PTB, le NEC plus ultra a un prix.
Bien sûr qu'un parlement doit fonctionner de manière efficace. Mais si on se rend compte qu'on voulait avoir les équipements de dernier cri, qu'on voulait avoir une salle de cinéma, qu'on voulait avoir les bureaux de dernier cri, et qu'on n'a pas regardé à la dépense, faudra se justifier. Parce qu'on ne peut pas à la fois demander à tout le monde de regarder la dépense et dire aux parlementaires, les gars, comme vous voulez, hein, vous pouvez dépenser comme vous voulez. Ça ne va pas.
Le projet était initialement estimé à 17 millions d'euros. La facture dépasse aujourd'hui les 46 millions d'euros d'argent public. Comme pour le tunnel, c'est trois fois le prix de départ. Une explosion de budget qui a, une fois de plus, totalement échappé aux membres du bureau. Manu Di Sabato pour Écolo.
Mais ça échappe à tout le monde parce que simplement, on ne nous a pas fait un retour d'information. Moi, il est important, quand on a une délégation de pouvoir faire un retour à son mandant. C'est celui qui vous envoie, qui vous délègue son pouvoir. Il a le droit d'être en connaissance, avec exactitude, avec précision, des informations. Une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, on peut toujours se dire que on connaissait le coupable. Ça, c'est assez facile.
Le 12 décembre 2022, soit 5 jours après la diffusion de notre enquête, Jean-Claude Marcourt et les 4 autres députés qui composent le bureau du Parlement de Wallonie démissionneront. Ils paieront le prix du manque de vigilance à l'égard d'un homme qui avait pratiquement les pleins pouvoirs, notamment sur le personnel du greffe et sur l'utilisation de l'argent public. Frédéric Janssens a d'abord été suspendu pour 6 mois, une suspension prolongée en mars 2023 pour une nouvelle période de 6 mois avec un salaire raboté de 20%. Au total, une 10aine de plaintes pour harcèlement ont été déposées contre lui et il est au cœur de plusieurs autres dossiers sur lesquels se penche la justice. Des dossiers liés à l'explosion des coûts, mais aussi à plusieurs marchés publics orchestrés par Frédéric Janssens et qui semblent bien entachés d'irrégularité.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Xavier Kounas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Le Soir, responsable du pôle enquête du quotidien. Thomas Gadisse, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Vous êtes journaliste et responsable de la cellule politique de la RTBF. Xavier Kounas, c'est vous qui avez écrit ce fameux article le 12 septembre 2022 qui entraînera la mise à l'écart de Frédéric Janssens et l'explosion finalement du scandale. Alors d'autres journalistes, notamment pour Médor et L'Avenir, avaient déjà évoqué des accusations de harcèlement portées contre le greffier. Mais est-ce que vous vous attendiez, vous, à un tel retentissement après la publication de votre article ?
on se projette jamais trop vers ce que ça va donner. Bon, je m'en rendais bien compte en collectant les infos au fur et à mesure que il semblait y avoir un problème manifeste au sein du Parlement wallon. Donc on a essayé de sortir une première pièce et on s'est dit qu'elle en appellerait d'autres. Après, je pense qu'on pouvait pas prévoir tout ce qui est arrivé.
Vous avez reçu beaucoup de témoignages, vous avez entendu beaucoup de personnes qui se disaient victimes des agissements du greffier.
Oui, oui, c'est ça, parce que ça commence comme ça. Il faut bien comprendre, ce sont des gens qui ont essayé d'activer des relais politiques pour faire entendre leur mal-être, qui ont essayé, par des biais journalistiques, hein, notamment par l'Avenir et Médor, d'expliquer qu'il y avait une situation compliquée au sein du greffe, et rien ne s'est passé. Je pense que ce qu'on a pu amener, nous, au soir, dans cet épisode de septembre, c'est un enregistrement où le greffier se montrait clairement menaçant, et le fait qu'il y avait une plainte formellement déposée par une personne quand même haut placée dans la hiérarchie du greffe, qui dénonçait les agissements du greffier. Reconstitué mis bout à bout, on avait une série de témoignages et d'éléments très précis et factuels qui montraient comment le greffier pouvait se comporter et en quoi ce comportement était potentiellement problématique. Je pense que j'ai dû voir une dizaine de personnes avant la publication du premier article. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est que je pense 2 ou 3 jours après ce papier, un agent du greffe que je connaissais pas m'a contacté pour me dire « on voudrait faire une carte blanche pour vous décrire ce que c'est le management de la terreur et montrer à quel point c'est problématique ». Il voulait faire une carte blanche anonyme parce qu'il souhaitait pas s'exposer. Le deal avec le soir était de dire « on veut bien la publier à condition que... » il y a assez de signataires et que nous, on connaisse l'identité. Et j'oublierai jamais cette soirée. Il se fait que j'étais à Paris d'Aïsa pour la petite histoire. Et entre 18h et 8h le lendemain matin, j'ai 54 agents du greffe qui m'ont soit téléphoné, soit envoyé un WhatsApp, soit... Donc c'est-à-dire la moitié à peu près des effectifs pour décrire leur mal-être, des gens qui parlaient vraiment parfois dans des termes... Enfin, ça foutait le frisson, hein, pour être honnête. Et là, moi, j'ai pleinement pris conscience que le problème de fond structurel sur ce côté harcèlement et malaise au travail était important.
Le scandale éclate vraiment à ce moment-là, sur la place publique. Thomas Gadisseux, politiquement, il se passe quoi à ce moment-là?
Beaucoup de mépris, en fait. Au début, on a le sentiment que dans la classe politique... On savait quand même une partie des choses, parce que la question de la gestion des ressources humaines avait quand même déjà été évoquée, et que la question de la gestion des deniers publics, à partir du moment où il y avait un contrôle, tout ça a été installé depuis des années, et beaucoup n'ont surtout pas mesuré l'ampleur de ce que ça résonnait au sein de la population, en fait. De se dire, on est dans une législature critique. Faut se rappeler que les finances de la Wallonie sont historiquement basses, enfin, catastrophiques, avec une séquence autour des inondations qui a plongé la Wallonie dans une détresse, vraiment en termes de finances publiques. Et que là, on a un scandale sur la gestion des deniers publics très basiques, un bâtiment, du mobilier, et que tout ça passe quasiment au-dessus des épaules des élus. En fait, c'est ça la principale faute politique. C'est de ne même pas avoir mesuré l'ampleur, comment ça résonnait. Ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il a fallu des semaines et des semaines, des coups de butoir, révélation après révélation, par différents médias, pour qu'à un moment donné, ça éclate. Ça veut dire que, foncièrement, est-ce qu'il se rendait compte du problème que soulevait cette affaire? Je reste persuadé que quasiment non.
Parce que le bureau du Parlement wallon et son président, donc Jean-Claude Marcourt, va finir par démissionner. Ce sera le 12 décembre, donc 3 mois plus tard, 3 mois après la sortie du soir. Qu'est-ce qui fait finalement que le bureau démissionne?
Alors c'est un enchaînement et c'est cette espèce de saga qui, en Belgique, est obligée de s'emparer du microcosme politique et du microcosme médiatique pour qu'à un moment donné, il y ait véritablement des actes de responsabilité qui sont posés. Et c'est ça, moi, qui me choque en Belgique. C'est que nos critères de gouvernance et de transparence sont tellement bas que ce n'est pas la révélation en soi des faits qui provoque une démission et une prise de responsabilité. C'est l'espèce d'obligation d'avoir une SEGA, une espèce de crucifixion médiatique de nos élus, une dramatisation, avec tout ce que ça a comme impact sur la confiance de nos élus, pour qu'à un moment donné, des actes soient posés. Et il a fallu des mois, à un moment donné, investigation où là, clairement, le président de l'Assemblée répond à des questions, et le « vous me l'apprenez » est tellement significatif, en fait. On a l'impression qu'il découvre des faits qui pour l'instant sont clairement, enfin qui à l'époque sont connus de tous, et que c'est cet élément-là qui est une goutte d'eau en fait, parce que objectivement les faits révélés par le voyage, on en reparlera, ne sont pas les éléments les plus excessifs de ce dossier.
Mais parlons-en du voyage, c'est ce fameux voyage à Dubaï, 4 jours, le greffier part avec Jean-Claude Marcourt, 4 jours à Dubaï pour l'exposition universelle, 20 000 euros, c'est une information qu'Investigation a publiée le soir également, c'est ça qui fait à un moment tomber Jean-Claude Marcourt.
Je crois que c'est ça, c'est une accumulation et il se fait qu'au moment où le reportage d'Investigation sort et qu'on fait un article en parallèle, c'est sans doute l'élément majeur neuf qui arrive dans la barque à ce moment-là. Voilà, s'il n'y a pas les plaintes pour harcèlement en amont, s'il n'y a pas cette espèce d'absence de gestion totale des dépenses publiques, il y a un truc qui m'a marqué dans un des premiers mails que j'envoie au bureau, donc présidé à l'époque par Jean-Claude Marcourt, on lui demande simplement les chantiers. Pouvez-vous nous dire en fait, combien ça a coûté. Il y avait toujours des prix affichés sur le site du Parlement qui étaient complètement faux. Juste, donnez-nous le détail. Ça coûte combien? Est-ce que vous avez contrôlé ça? On nous dit que ça dérape. Ils ont été incapables de nous faire une réponse. Il a fallu 2 mois et demi pour faire un rapport, commander un auditeur externe. Donc, moi je me passe pour y croire. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait un chantier qui est en train d'être fait? Un chantier, personne ne remet en cause la beauté.
Avec de l'argent public.
Avec de l'argent public.
Un peu pharaonique, hein.
Il y a quand même quelqu'un qui suit ça, qui monite. Ils étaient incapables. Je pense sincèrement, je crois vraiment sincèrement, personne n'était capable d'identifier ces coûts. Donc, tout ça se met bout à bout. Il y avait un marché public, on peut y revenir. Mais, et donc, on sort ces éléments. Et puis, c'est vrai, il y a ce voyage. Alors, je pense pas que, enfin, voilà, il y a d'autres personnes qui sont parties à l'expo de Dubaï. C'est vrai qu'il y a quand même des questions parce qu'il n'y avait pas d'accord au bureau pour que Jean-Claude Marcourt et Monsieur le greffier y aillent. Il y en a qui se sont désistés. Ils ont pris la première classe alors que le règlement ne l'autorise pas. Et puis, je pense que quand on aligne simplement la facture du vol, de l'hôtel et les conditions dans lesquelles ils voyagent, eh bien, les gens qui ont du mal à payer à ce moment-là leur gaz et leur électricité se disent, c'est pas tenable. Et puis voilà, cette cocotte a l'air d'exploser. Il faut quand même, je pense, reconnaître le poids de votre reportage télévisuel qui donne encore une autre ampleur à l'enquête. Et puis voilà.
Mais pourquoi ça explose ce jour-là, alors que ça fait des mois qu'il y a des révélations quasi quotidiennes? Pourquoi Jean-Claude Marcourt saute sur ce dossier-là? Il est lâché par le Parti Socialiste, alors qu'il y a l'affaire Nethys, où là, on est quand même dans des autres montants en termes de millions. Et je crois, c'est un élément en tout cas, c'est qu'il faut se rendre compte que le calendrier se télescope. La diffusion, c'est un mercredi soir. Paul Magnette vient à jeudi en prime le lendemain. Il estime qu'il n'y a pas de problème. Hein, grosso modo, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il se reprend, il se prend un retour médiatique de ses déclarations. Peu de personnes comprennent quand même sa posture. Et le vendredi, une réunion entre certains grands ténors socialistes se tient, le vendredi à midi. Et il me revient qu'ils ont entendu que le journal Le Soir, justement, Xavier en l'occurrence, allait sortir quelques heures plus tard un autre scandale, le Qatargate, qui impliquait des personnalités socialistes. Et on ne m'empêchera pas de croire qu'à un moment donné, le Parti Socialiste s'est dit, deux incendies en même temps, c'est ingérable. Et ils ont lâché Jean-Claude Marcourt parce que cette réunion a lieu sur l'heure du midi le vendredi et Paul Magnette vient faire une déclaration un peu organisée dans les couloirs de la VRT puisqu'il allait à un enregistrement vers 15h30 si je me rappelle. Donc tout ça se télescope et provoque la chute d'un des ténors, Jean-Claude Marcourt.
On parle aussi d'un autre scandale qui a été publié justement, Xavier, dans Le Soir depuis notre enquête du côté d'investigation. C'est celle du mobilier à l'intérieur de cette maison parlementaire. On parle de 2,35 millions d'euros d'ameublement intérieur. Ça peut choquer les gens, ça.
Je me souviens avoir reçu le cahier des charges où on décrit tout le mobilier qu'on va utiliser dans le Parlement. Alors le point, c'est un élément de détail, mais je trouve que ça en dit beaucoup. C'est le descriptif du mobilier pour la chambre du président. Moi, déjà, je savais pas que le président avait une chambre au Parlement. Il a un chauffeur, il habite à Liège, enfin, ou qu'il habite en Wallonie, on n'est jamais très loin de Namur. Mais donc, il y a une chambre qu'il peut utiliser. Et alors, on commence à décrire, j'ai oublié les dimensions, mais la taille de l'abat-jour des deux lampes, la taille du lit, le truc, on me dit qu'il faut absolument du mobilier d'une telle marque produite en Suisse parce que c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il voulait. C'est tout à fait classique.
C'est ce qu'il faut pour une chambre de président.
Mais personne, je veux dire, moi je sais pas, je me mets du côté de monsieur Alain Tout-le-Monde, je m'excuse, mais à aucun moment il ne me viendrait à l'idée de définir la taille de l'abat-jour de ma lampe de chevet.
Mais pourquoi c'est défini alors? Parce qu'on voulait une société bien précise qui allait pouvoir livrer le matériel?
Il voulait avant tout un type de mobilier bien précis, de marque très, très prestigieuse, parce que sans doute ça fait bien et qu'il faut vivre dans des meubles comme ça. Parenthèse, la chambre du président, ça me semble pas être un lieu hautement diplomatique. Je peux encore
c'est
entendre
pas public,
que...
a priori.
Non, voilà, que dans certains couloirs où quand on doit recevoir les gens, il faut que ça ressemble à quelque chose. Je pense derrière que
oui,
ressembler à quelque chose et prendre des meubles tout à fait hors de prix,
parce que des chaises à 5000 euros pièce, de bureau, un fauteuil à 18000 euros, une machine à café à 2500, c'est quand
faut
même...
Que ça tienne longtemps, justement. Ça
rigole. Oui, mais c'est un des éléments qu'ils avancent. C'est dire, on a pris du mobilier durable et pour avoir du durable, il faut le prix. Et puis, la deuxième question quand même, c'est, il se fait que, par hasard, tous les meubles qu'ils ont choisis, le type de meubles qu'ils ont choisis, étaient justement dans le catalogue d'une maison namuroise qui pouvait donc livrer l'ensemble. C'est même qui a été consulté pour rédiger le cahier des charges et donc donner toutes ces dimensions précises pour qu'on identifie bien les meubles dont on a besoin. Et il se fait qu'à la fin du marché, c'est cette société namuroise qui a raflé la mise. Donc il y a, d'ailleurs la justice en est saisie, parmi d'autres dossiers, il y a quand même des questions sur le fait que est-ce que ce marché était tout à fait clean ou est-ce qu'on n'a pas voulu favoriser dès le départ une société cité namuroise pour se choisir des meubles. Moi, je dis, il y a peut-être rien de plus vicieux que ça, hein, mais voilà, on voyait grand. Alors on nous dit oui, mais à la Chambre, dans les autres parlements, tout le monde a des beaux meubles. Bon, j'en sais rien, moi j'ai pas fait l'étude de tous les parlements. J'aimerais juste du prochain marché public pour les meubles, on y sera sans doute plus attentif. Mais il y a quelque chose d'indécent sur, enfin je crois vraiment d'indécent sur les dépenses de certains objets. Voilà, c'est notre argent à tous et je pense qu'il faut une certaine mesure pour que ce soit acceptable. Et là, on a vu en l'occurrence que l'opinion publique, je pense, rejetait ces dépenses.
Et donc là, il y a deux choses. Il y a les prix excessifs et en effet, ce qui peut choquer dans l'opinion publique. Et puis, il y a ces marchés publics qui seraient entachés d'irrégularités finalement. Et on retrouve ça aussi dans l'attribution ou le choix plutôt d'une société pour fournir un logiciel informatique au Parlement. Il y a aussi un peu ces mêmes doutes, ces mêmes suspicions qu'une société a été favorisée pour obtenir le marché.
Oui, c'est un truc que j'ai vraiment entendu dès le départ quand j'ai commencé à parler aux gens. On me dit attention, regardez bien les marchés publics, vous allez voir, le greffier souvent, voire une main politique derrière, choisit à l'avance qui il veut pour obtenir un marché, et puis forcément c'est toujours lui qui l'obtient. Bon, c'est vite dit, c'est très difficile à démontrer, hein. Et donc ce qui me semble être factuel, c'est que pour deux marchés, celui du mobilier dont on vient de parler, et donc celui d'un logiciel informatique, qui est en fait le logiciel central qui permet de faire tourner le Parlement, là aussi, ils avaient un consultant en amont qui a écrit le cahier des charges, et c'est ce consultant qui, à la fin, avec sa société, a raflé la mise. Et donc on sait quand même, il a eu accès à l'ensemble du système alors que les autres concurrents n'y avaient pas droit. Il y a quelques éléments très factuels qui semblent indiquer en tout cas qu'un candidat a été favorisé et qu'à la fin, ce candidat a remporté le marché. Donc voilà, ce dossier d'ailleurs est également, il a été dénoncé à l'Office central de la répression de la corruption qui enquête sur les entraves à la liberté des marchés. C'est une infraction potentiellement pénale si elle est avérée. Et donc là, je pense que vraiment, typiquement, c'est des dossiers dans les mains de la justice. Il faut quand même rappeler, alors ça paraît peut-être anecdotique, moi j'en sais rien, où on a l'impression qu'on va gratter dans les points de détail, mais une autorité publique, en l'occurrence un Parlement qui incarne la démocratie, je crois, se doit de respecter la législation sur les marchés publics et d'ouvrir les portes à tout le monde.
Mais est-ce qu'on ne laissait pas trop de pouvoir à ce greffier, à Frédéric Janssen? On entend dans le reportage qu'on vient de diffuser, Manu Di Sabato dire pour Écolo, le vrai patron du Parlement, c'était Frédéric Janssen, parce qu'il avait la main sur l'ensemble des services du Parlement.
Parce qu'à l'époque, le bureau estimait que par souci d'efficacité pour la gestion justement publique, fallait qu'à un moment donné, ce greffier puisse agir rapidement, gérer les dossiers, parce que les élus ont un peu autre chose à faire. On se rend compte que forcément, on lui a donné beaucoup trop de pouvoir. Mais donc là, on est dans le volet politique, en fait, où là, chaque fois, les responsabilités sont hyper partagées. Ce qui est intéressant dans l'affaire ici, c'est qu'il y a des éléments judiciaires, que ce soit en termes de harcèlement ou que ce soit en termes de marché public, qui, là, pourront avoir un vrai écho et probablement provoquer un électrochoc. Mais ce sera intéressant aussi de voir comment tout ça va se télescoper, parce qu'on rentre dans une année d'hystérie politique, on va dire, avec une année électorale où personne ne va se faire de cadeaux.
On va voter à tous les niveaux de pouvoir.
Et si ce calendrier judiciaire vient se juxtaposer à la campagne électorale, ça va être explosif. Et ça paraît inévitable, en fait, parce que les dossiers sont tous en cours, et à un moment donné, ils vont sortir au fur et à mesure, et des personnalités impliquées de près ou de loin vont être pointées du doigt. Et là, ça va de nouveau être compliqué, quoi. Comment, à un moment donné, continuer à marteler l'importance de la démocratie, de ces assemblées, de la gestion des marchés publics, quand, sur la même page du journal, on a le suivi judiciaire de tel élu impliqué ou tel greffier qui a mal fait son travail. Ça va être compliqué, quoi.
Xavier Kounas, on a une idée du calendrier judiciaire, des délais dans lesquels ces enquêtes, dont une enquête pour harcèlement qui est ouverte à l'auditorat du travail et une enquête, on a dit, au parquet de Namur qui concerne plutôt les marchés publics. Est-ce qu'on sait quand tout ça va aboutir ?
Non, c'est toujours compliqué avec la justice, évidemment, et ça prend souvent un peu de temps. Ce que j'ai pu entendre, c'est qu'au niveau de l'auditorat du travail, donc il y a plus d'une dizaine de plaintes, 14 au dernier comptage, mais ça évolue vite. Toutes les personnes qui ont porté plainte ont été entendues. Elles ont demandé que d'autres témoins soient entendus, et donc il y a une série d'auditions à faire. Et puis évidemment, il faudra entendre le greffier Janssen à un moment. Une des personnes qui a été interrogée me glissait que les enquêteurs qu'il a rencontrés disaient pas avant 2024, ne vous attendez à rien avant janvier 2024 au plus tôt. Donc ça va à minima prendre encore un moment. Sur le volet du parquet de Namur et donc des dépenses ou des marchés publics non respectés, la seule chose que je peux dire là, c'est qu'on a vu qu'ils ont déployé des moyens assez colossaux. Je pense qu'il y avait plus de 120 policiers pour une perquisition belge et même au-delà de nos frontières. Le domicile secondaire, la résidence secondaire du greffier, oui, voilà, a été perquisitionné près de Marseille. Et donc ils ont pris une large série de documents, de systèmes informatiques de tout le monde, ils vont les éplucher. Mais je pense que ça va prendre du temps. Hein, pour continuer un petit parallèle qu'on a fait tout à l'heure, une affaire qui m'arrive de suivre aussi sur le dossier liégeois Nethys, c'était 2019, l'histoire des ventes secrètes et des indemnités.
Et on n'a toujours pas de suite judiciaire.
Ce n'est toujours pas clôturé. Ouais. Hein, oui, donc ça fait 4 ans si on compte ce délai-là. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre ici. À mon avis, l'auditorat peut aller plus vite. Il y a 9 dossiers, hein, si j'ai une petite précision encore, 9 dossiers à ma connaissance ouverts par le parquet de Namur. Est-ce qu'ils peuvent avancer plus vite sur certains que d'autres? Mais c'est clair, comme dit Thomas, qu'on n'est pas à l'abri entre toute la campagne électorale
qu'elle
qui va arriver.
Quoi. Quelle sape sur l'institution, quelle sape sur la politique, la manière de l'exercer.
Mais le politique n'a pas attendu non plus que le judiciaire aboutisse pour prendre des mesures. Il y a quand même des choses qui ont été décidées au niveau politique. Thomas, il y a un nouveau bureau, par exemple, du Parlement wallon qui a été élargi à l'opposition pour plus de transparence.
Oui, et à voir si justement, sur la longueur, ça crée cette logique de transparence, de l'ensemble de ces voyages sera dorénavant beaucoup mieux encadré, avec une transparence même au niveau de l'Assemblée, tout ça, on va voir. Mais est-ce qu'il faut à ce point encore rajouter des règles? Les règles, elles étaient là, en fait.
Il faut juste les respecter.
J'ai toujours le sentiment qu'il y aura toujours moyen de les contourner. D'autres assemblées avaient des règles aussi en termes de voyage. Pourquoi les Wallons ne se sont pas alignés? Je crois que c'est vraiment cette espèce de culture de la gouvernance, les critères que collectivement le monde politique se fixe. Et est-ce qu'ils ont vraiment mesuré l'importance de la résonance sur l'opinion publique? Et où était le problème, en fait? Je ne suis pas certain, ça, qu'ils ont capté où était vraiment le problème d'avoir, comme on l'explique, une gestion complètement démesurée d'une institution et d'une région qui n'en a tout simplement pas les moyens, il faut le dire ce qui est. Enfin, je veux dire, on est quand même une des régions les plus pauvres d'Europe qui ne peut pas se permettre d'avoir une espèce de pavillon avec du mobilier de luxe. Enfin, où on est, quoi?
Sur les conséquences, quand même, pour dire quelque chose d'un peu positif, c'est vrai donc qu'on a ouvert le bureau à l'opposition. Ça me semble relativement sain hein, que tous les partis représentés au sein de l'Assemblée puissent participer à la gestion de l'institution. Thomas le disait, sur les voyages, on a quand même accentué les règles de transparence. Et donc, vous pouvez faire le test, aller voir sur le site. On trouve maintenant les détails des voyages. Avant, il m'est arrivé de trouver certains PV où on délibérément, ils écrivaient « Il ne faut surtout pas que le prix de ce voyage apparaisse dans la presse ». Donc, il y a quand même une volonté de cacher le coût de certaines missions. Pas les grandes missions officielles, mais les petites missions, ils partaient parfois à 2 ou 3. Il y a une évolution. Donc, ça bouge. C'est jamais parfait, mais les lignes bougent quand même un peu. Et alors, il y a cette volonté d'avoir créé une commission. Alors, j'espère que ce sera pas un nouveau brol supplémentaire. C'est quand même une commission qui va suivre les dépenses de plus près. Mais, comme dit Thomas, à un moment, je pense pas qu'il faille mettre 36 règles pour dire comment contrôler. Il faut juste que des députés, parce que même les députés wallons, hein, tout le monde est libre de poser des questions sur le coût des chantiers. Tout le monde est libre de challenger et de questionner la gestion du greffier. Quand on ne l'a pas fait, c'est un échec du contrôle parlementaire. Je pense que certains ont retenu la leçon et appliqué le contrôle parlementaire. Il n'y a pas besoin de l'écrire dans 26 décrets. Hein.
C'est intéressant quand même ce que dit Xavier. Le bureau n'a pas bougé hein, quand le soir a fait des révélations. Donc c'est parce qu'il y a eu à un moment donné la phrase de Jean-Claude Marcourt et que tout s'est emmêlé. Mais en fait, le bureau...
Ils ont demandé un audit.
Oui, ils ont demandé des audits, mais il n'y a aucune prise de responsabilité claire de la part même des partis comme les Verts qui ont pointé cette question de gouvernance au centre de leur politique. Donc, c'est la preuve qu'il a fallu de nouveau cette saga et cette cascade de révélations pour qu'à un moment donné, ça craque.
Juste une dernière question. Quel impact ça va avoir sur la confiance finalement des Belges, la confiance des électeurs envers le pouvoir politique? Est-ce que ce genre de scandale jouera un jeu dans les nombreuses élections qui nous attendent l'année prochaine?
Mais il ne faut pas se leurrer. Le premier parti d'opposition en Wallonie, c'est le PTB qui, un des grands axes de sa politique, c'est la question de la gouvernance, la manière dont on finance les partis, les élus, le salaire. Enfin, vous avez... Et donc, ça fait exactement écho à leur programme, au socle de base de leur programme. Or, on sait la paralysie que ça provoque d'avoir ce PTB sur l'échiquier politique. Donc, la conséquence politique, elle est là. Sans rien faire, ils ont gagné des points de sondage, mois après mois. Ça, c'est un élément. Et puis l'autre, c'est la confiance. Enfin, on parle tout le temps et encore et toujours de cette défiance vis-à-vis du monde politique. Comment expliquer ce scandale? Enfin, je veux dire, même, on peut s'y prendre à tous ensemble, médiatiquement, politiquement, il n'y a aucun explicatif, quoi. Et le pire, ça a été la réponse au scandale, comme je dis, quoi. C'est vous me l'apprenez. Enfin, c'est ça le pire pour moi. Ça reste ça, cette espèce d'incompréhension à capter le problème derrière la révélation.
Vous avez Kounas aussi sur cette méfiance qui grandit et du coup ce genre de scandale ne contribue pas à la soigner.
Non, c'est clair et surtout c'est pas le premier. Alors moi je pense qu'on est dans notre rôle. Hein, la presse, on nous demande d'être un peu les chiens de garde de cette démocratie et d'aller regarder ce qui se passe. Et quand on voit quelque chose qui dysfonctionne, on le met sur la place publique. Je constate, je suis pas un expert de l'analyse politique, mais c'est vrai, je constate que le PTB monte en tire profit. Alors que, petite parenthèse quand même, je pense qu'ils avaient des éléments. Ils n'ont pas bougé non plus. Hein, ils pouvaient poser des questions. session au Parlement wallon, ils l'ont pas fait. Ils ont pu entendre certains agents du Parlement qui leur ont dénoncé certaines choses. Je suis pas sûr qu'ils aient fait remonter, ou en tout cas qu'ils aient actionné ça comme ils auraient dû. Dans les faits, ils progressent. Et on a ces discussions parfois dans des amis ou dans la famille. On me dit, mais avec vos révélations, vous faites monter le PTB, vous allez être responsable de ce PTB à la tête de la Wallonie demain. Franchement, je réponds toujours la même chose en inversant un peu la question. Moi, j'ai l'impression que nous, journalistes, on fait notre métier. Et là où il y a un problème manifeste, c'est dans la non-gestion de la réponse, en fait, à ces scandales. Que de temps en temps, quelqu'un déraille, ça arrivera toujours, mais que les partis au pouvoir prennent directement en main les choses, les réparent.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast, et merci à vous qui nous écoutez.